zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Ondes Buissonnières, notre émission consacrée aux pépites sonores de la radio. Aujourd'hui, nous allons entendre les deux derniers épisodes de la série podcast de rue de Sarah Jacquet, C'est comme ça la France et Pause Clope, qui seront suivis du deuxième épisode de la série Tout fout le camp de Manon Prigent, L'âge d'or, c'était mieux avant. Très bonne écoute à tous.
Podcast de rue. Rencontrer à la sortie du lycée, dans la ville,
au skatepark, les filles
et les garçons racontent comment la jeunesse pense, ce qui la met en rage,
de quoi sont faits ses rêves,
ce qui lui donne de l'espoir.
Comment vivre les années lycée,
la question du genre,
les études
ou pas,
partir
ou rester.
Podcast de rue, une série de podcasts tournés
à créer
par Radio Saint-Ferréol
en collaboration avec les éducateurs de rue
de la Drôme.
Épisode 4. C'est comme ça, c'est la France.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Je te présente Julia, Yael.
Yael et
Soussou.
Soussou.
Oui, Julia.
Julia, m'a enchantée.
Alors là, on est sur un chantier éducatif pour rénover, nettoyer, rénover des transformateurs.
J'avoue que je suis quand même un peu dure avec mon petit personnel.
Et pourquoi moi j'y arrive?
Donne-moi ça, peut-être que je vais y arriver, tiens, je vais y avec ça.
Oh, on se calme.
J'arrive pas, comment tu
dans
fais?
Dans la joie et la bonne humeur. Hein.
Appuie. Donc c'est pas une question d'outils finalement.
Donc le chantier éducatif, ça consiste à embaucher des jeunes, c'est un CDD. Et ça leur fait un petit billet à la fin, quoi. Et pour nous, c'est super intéressant aussi parce que ça nous permet de faire des choses avec les jeunes et de mieux se connaître, quoi. Alors aujourd'hui, je suis avec deux jeunes filles, Soussou et Yael. Et donc, on a pas mal d'affiches à décoller sur le transformateur Crève-Col, qui est souvent bien tagué, bien affiché. Là, on a plusieurs épaisseurs. Notamment, j'ai bien galéré sur un petit autocollant RSF qui collait très très bien.
Ah tiens, tiens.
Ouais. C'est dans la rue Crève-Col, entre la mission locale et le parking étincelle. Et ce transfo, c'est la troisième fois que je le refais, celui-là. On avait déjà fait une première fois en jaune. Non. Très jaune, donc comme on est dans le périmètre de la tour, ça plaisait pas. On l'a repeint en cette couleur qui va être comme dans tous les transfos, le 1015. 1015, c'est un beige un peu jaunâtre, quoi. Et du coup, c'est la troisième fois là que je fais ce même transfo.
Géraldine, on commence pas la peinture? Ah non, c'est ce qu'on aime la peinture. On va pas le gratter sans fin, c'est pour rien. Pas frotter à la main.
Jamais de la vie.
Ça va, Soussou? J'ai les mains sales, je frotte, j'ai des courbatures, je me sens pas bien. Non.
Mais tant que tu râles, c'est que tout va bien.
C'est mieux ça que rien, ça fait un billet en plus. Et dis-moi, Soussou, t'as quel âge?
J'ai bientôt 20 ans, là.
Et est-ce que tu travailles en ce moment ou est-ce
non,
que tu...
Non, je travaille pas. Il faut que je travaille. J'ai besoin de personne, hein, vous savez. Je suis quelqu'un de solitaire, j'aime pas les... J'aime pas. Toujours me suis débrouillée toute seule, j'ai pas besoin des gens pour m'en sortir. Ouais, sauf dans le travail, c'est le seul milieu où malheureusement... Tu peux pas être ton propre patron. Je suis pas trop sociable non plus. Ça veut dire les personnes, bonjour, vous allez bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous sers? C'est pas pour moi.
Ça va être retiré sur salaire. Hein? Pas ma porte. T'es arrivé en retard ce matin, j'étais avant toi.
Arrête, j'étais à 10h02.
Bah moi j'étais à 10h, donc t'étais en retard.
Oui, mais parce que j'ai eu
un... Attends, tu m'as dit quoi? 10h, c'est pas 10h01, c'est pas 10h06.
Oui, mais j'ai eu un imprévu et ça fait partie aussi du travail.
D'accord.
Yael, j'ai 16 ans.
Oui, je suis en seconde. Là, je suis en train de refaire ma seconde, faire redoubler pour retenter ma chance d'avoir le bac et pas partir dans un truc qui me fait pas kiffer, quoi. Ouais, j'aimerais bien avoir le bac général pour faire des études après. J'aime beaucoup le débat, la politique. J'aime bien m'imaginer comment un État pourrait fonctionner avec différents partis politiques, différentes manières de faire. Enfin, comment tenir un État, je sais pas trop comment m'exprimer, mais oui, le fonctionnement des individus dans la société, quoi.
Je voudrais savoir ce qui te donne de l'espoir, toi, par rapport à ta génération, par rapport à ton âge, quoi.
Faut parler à la mauvaise personne. Faut être fou pour avoir de l'espoir. C'est fou, faut être fou. Hein. C'est comme ça, c'est la France. Oh, on est le pays le plus endetté, on est le pays le plus taxé. C'est normal, ça aussi. Non, mais non, non, faut pas me parler politique.
Alors, tu vas faire quoi avec tes sous? Je vais payer mes amendes.
Ah, oui,
super. SNCF, hôpital. Je travaille pour payer mes dettes, c'est même pas pour moi.
Bah si, c'est pour toi.
Je travaille pour l'État.
Je travaille pour te mettre à plat, à jour.
Et moi, j'ai que 20 ans, donc être endetté à 20 ans.
Toi, t'as grandi à Cré?
Non, moi, je viens d'Alsace. Là, ça fait 3 ans que j'habite à Cré. Je viens de Colmar. Ça bougeait pas du tout là où j'étais. Là, maintenant, c'est pas une grande ville pour moi à Cré, genre.
Et comment ça s'est passé, la transition?
Moi, je préfère ici. Hein, en comparaison, j'irai pas revivre en Alsace. Ici, je suis très bien. Et puis, je trouve que la ville, elle est plus ouverte, qu'il y a plus de choses qui se passent. Non, j'aime bien le mood Cré, j'aime bien.
Moi, j'étais partout. J'étais placée. J'étais foyer en foyer, partout. Je fuguais, en fait, je restais pas. Ouais, je l'ai fait le tour de France. J'aime pas Paris, j'aime pas Lyon, j'aime pas Grenoble, j'aime pas... J'aime Marseille, moi. Si, j'aime Marseille. J'ai vécu là-bas pendant 2 ans, c'était bien. Hein. J'ai envie d'être vers Prado.
Ouais. Je vais bouger pour faire mes études, mais peut-être revenir un peu plus tard. Mais je pense que j'irai faire mes études vers Montpellier, Grenoble, peut-être Paris, je sais pas. Mais ouais, la ville étudiante, ça me ferait kiffer, ouais.
Cet après-midi, on commence la première couche. Demain, une deuxième couche. Je pense que celui-ci fera une belle impression une fois qu'il sera tout beau, tout propre.
C'est bien, ça va faire une couche d'accroche pour les prochains tags.
Alors, il paraît que ce transformateur, il est tout le temps nettoyé et tout le temps tagué.
La créativité étant sans limite, il y aura toujours des personnes pour mettre de la beauté dans la ville. Et de la pensée, parfois, en plus. Des idées.
C'était C'est comme ça, c'est la France. Prise de son, réalisation et montage, Sarah Jacquet, Radio Saint-Ferréol. Merci à Yaël, Soussou et Géraldine.
Podcast de rue.
Rencontrés à la sortie du lycée, dans la ville,
au skatepark, les filles
et les garçons racontent comment la jeunesse pense, ce qui la met en rage,
de quoi sont faits ses rêves,
ce qui lui donne de l'espoir.
Comment vivre les années lycée,
la question du genre,
les études
ou pas,
partir
ou rester.
Podcast de rue, une série de podcasts tournés
à Cré
par Radio Saint-Ferréol
en collaboration avec les éducateurs de rue
de la Drôme.
Épisode 5, Pause Clope.
Mais tu vas arrêter de fumer toi bientôt, je crois.
Mais moi là, je suis sur le coup là.
Cigarette en attendant le bus.
Tu fumes la cigarette en attendant le bus?
Tout le temps.
Pour patienter.
D'accord.
J'aime pas, je déteste rien faire.
Pour repousser?
Non. Moi j'aime pas. J'aime pas repousser.
Repousser,
c'est
quoi?
Moi, en gros, t'as vu, si j'ai mes devoirs à faire, je vais dire bah je vais me péter une clope et après je vais faire mes devoirs. Genre si j'ai une tâche à faire.
Pour déstresser, allez, hein. Quand même.
Mais ça marche?
Ouais.
Cigarette pour déstresser. Non, moi j'ai déjà mes peaux de doigts dégueu là.
Avant de dormir. Ah, mais non. Non. Il n'y en a pas. Cigarette après le ciné. Bah, en fait, on sort avec les copains, du coup, bah oui.
C'est un son mobile qu'on appelle la charrette santé et qu'on déploie une fois par mois, en tout cas à la sortie du lycée d'Armorin, et une fois par mois aussi à Saint-Louis. Et en fait, on aborde un peu tout ce qui est risque pour les jeunes. Et donc, on parle des produits stupéfiants, du tabac, de l'alcool.
Je suis quand même super saine, moi, je trouve. Hein.
Oh ben là,
mais surtout, t'en as zéro dans besoin, c'est ça qui est sain. Ça veut dire que t'es pas.
Du coup, ça,
addict.
C'est que celle par jour, genre.
Là, c'est t'en as 8. Hein.
Oui, il y en a 8, mais parce qu'il y a l'apéro, soirée. Je prends pas l'apéro tous les soirs.
Tant mieux.
Et on parle de l'expérience qu'ont les jeunes. Et à partir de là, on essaye de voir avec eux de façon à ce qui c'est des comportements le moins risqués possible.
Donc en fait, le fait qu'on ne fume pas devant ses parents, c'est un moyen de réduire sa consommation. Donc c'est un bon levier quand les parents ne sont pas d'accord qu'on fume.
Moi, depuis qu'ils m'ont autorisé à fumer devant eux, enfin à fumer chez moi, j'ai augmenté ma consommation chez moi.
Ah.
Je suis Roxane Ferro, chargée de prévention, et je travaille avec les éducateurs de rue de Cré depuis 2012 sur la charrette et aujourd'hui dans le cadre de l'événement mensuel Moi sans tabac.
Bah moi je fume chez moi quand il n'y a pas mes parents, je vais sur la terrasse, je fume. J'ai fumé une fois chez moi et en fait j'ai mon lit, il est juste en dessous de ma fenêtre, du coup le vent ça a fait rentrer la cigarette et mes draps ils ont sorti pendant 3 jours. Du coup ma mère quand elle venait, mais maintenant elle est au courant, mais bon je le ferai pas quand même, tu vois.
Mais au moins tu le fais pas chez toi.
Ouais.
Ça limite déjà le nombre de clopes. Avoir une idée vraiment juste de combien j'en fume par jour. Parce que des fois on est complètement à côté. Tu roules ou tu achètes des blondes?
Les deux.
Parce que quand tu roules, tu peux pas voir combien de temps passe.
Oui, mais c'est vrai que tu vois pas combien tu consommes par jour. Mais moi je trouve aussi aller en soirée, ça dépend aussi si tu sors beaucoup. Moi je sais, je vois que quand je sors pas beaucoup, je fume presque pas, voire pas du tout.
C'est moins tenté en fait.
Ouais, voilà. Mais moi par exemple, je l'ai vu depuis que je suis avec mon copain, il déteste l'odeur de la cigarette, il a eu un passif avec ça. Genre je sais que je viendrai pas à fumer devant lui et ça réduit ma.
Clairement.
Parce que j'ai travaillé avec lui cet été, j'allais dormir chez lui et du coup pendant les 2 mois j'ai dû fumer très très peu juste en soirée. Mais quand je vais en soirée, oui, bah mes paquets sont vides quoi quand je reviens le lendemain.
C'est sûr. Merci à toi de ta participation. T'as pris une enveloppe là?
Ah non, tu peux hein.
On en a plein. Okay. Il y a plein de petits conseils, des astuces. Voilà.
C'est quoi toi ton rapport à la cigarette? Tu dirais addict, pas addict? Comment tu vois les choses?
Si moi je pense que je suis addict à la clope. Je pense depuis à peu près 1 an.
T'as commencé au lycée?
En fin de 3e.
T'as une consommation moyenne, tu pourrais dire, à peu près?
J'essaye en ce moment de me pré-rouler 10 clopes pour la journée, parce que sinon, je peux en fumer 25 sans m'en rendre compte et faire comme ça tous les jours, et puis après je me ruine, donc c'est plus pour l'argent que j'essaye.
C'est plus pour l'argent et c'est pour la santé aussi, tu l'as en tête?
Ça, moins, parce que ça me saoule de faire un truc et de me dire que ça me détruit la santé, enfin je préfère pas y penser, mais ouais, pour l'argent, ça me fait chier quand même.
5 balles par jour, 5 fois 30.
10 cigarettes par jour, 1 800 € par an, vous êtes d'accord? Vrai ou faux?
Bah moi je dis vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Je crois qu'il y a des substances qui disparaissent, mais il y en a qui restent, mais je sais plus lesquelles.
C'est vrai, 24 heures après la dernière cigarette, donc les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de fumée, et le corps ne contient plus de nicotine.
Ouais, c'est ça. Okay.
Hein, puis du coup, le taux de monoxyde de carbone dans le corps, on le retrouve plus.
Oui, on peut être accro à une puff ou une CE.
À la puff ou à la cigarette électronique?
Oui, la puff c'est des petites cigarettes électroniques jetables. C'est un peu débile. Voilà mes réponses. Sont-elles justes?
Alors, voyons voir. Donc, la première, on a dit que c'était vrai. Arrêter de fumer fait grossir un fumeur. S'il n'avait jamais fumé, il devrait faire en moyenne 2 ou 3 kilos de plus, ce qui serait son poids normal. Donc finalement, la prise de poids à l'arrêt du tabac, c'est 2-3 kilos, c'est de l'ordre du normal. Pour arrêter de fumer du tabac ou du cannabis, il faut se débrouiller seul. Bah, c'est faux. On peut le faire seul ou sinon, on peut aussi se faire aider par qui alors?
Il y a des numéros qui traînent sur les paquets de clopes et nous aider.
Infoservice, puis il y a aussi des consultations. Justement, à Cré, il y en a une. Il y a Addiction France qui propose des consultations pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. Des consultations en addicto et par rapport au tabac. Et ces consultations sont confidentielles et non payantes. Donc celle-là, on l'avait vu, on peut être accro à la puff ou à la cigarette électronique. Ben, pourquoi t'as mis vrai?
Parce qu'il y a de la nicotine dedans.
Ouais. Il peut y avoir de la nicotine dedans. Pas toujours, ils vendent des puffs ou des clopes électroniques sans nicotine. Fumer et prendre la pilule contraceptive, c'est dangereux. Hein. Voilà, augmente les risques cardiovasculaires, circulatoires, etc. Et fumer la chicha est moins dangereuse que fumer le tabac? Ben non, parce qu'on sait que la chicha, en termes de monoxyde de carbone, etc., de goudron, c'est beaucoup plus chargé. Ça reste plus dangereux.
C'est G20 sur 20.
Ouais, et tu sais ce que t'as gagné? J'ai des badges moi sans tabac.
Non merci.
C'est pas très vendeur, hein. Tu les vends pas bien en tout cas.
Moi, ma mère ne fume plus, donc c'est génial. Et toi, tu fumes? Pas du tout. Moi, je me suis promis que je toucherai pas à ça, ni... je bois un peu quand je suis en soirée, etc. Mais tout ce qui est... les drogues, etc. et la cigarette, je touche pas. Je me suis promis de pas faire ça. En plus, je suis asthmatique, donc au niveau souffle, etc., je serais pas capable. Ouais, ma mère, elle a eu une grosse période où elle fumait bien souvent, quotidiennement, vraiment. Elle s'enchaînait les cigarettes tous les jours. Et à un moment, je lui ai dit, maman, c'est bon, là, stop. Tu vas arrêter d'abîmer tes poumons. Je lui ai dit, vas-y, je te dis, là, pendant tout un an, t'essayes d'arrêter de fumer. Et elle a réussi à le tenir, et maintenant, elle touche plus du tout à la cigarette. Et franchement, franchement, je suis trop fière d'elle, etc. Au début, ça a été compliqué, mais franchement, au bout d'un moment, je lui ai dit, ouais, c'est bon, maman, là, je te mets un ultimatum. Tu te reprends en main, tu fais d'autres trucs, etc. Si tu sens que tu as envie de fumer, tu vas courir ou je sais pas quoi, ça te donnera de nouveaux trucs, de nouveaux objectifs. Elle arrive à courir 10 km maintenant, des trucs comme ça. Du coup, ça, alors qu'avant, elle était incapable. Du coup, franchement, je suis trop fière d'elle. Et même si c'est dur, je veux juste dire à toutes les personnes qui fument et qui veulent arrêter, même si c'est dur, vous pouvez y arriver en fait. Il faut juste se donner un objectif, se dire que ok, on fait ça pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un truc qui nous tient à cœur, et franchement ça peut, on peut tous y arriver.
Merci beaucoup.
Mais de rien.
C'est à toi de dire ça. C'est vraiment particulier pour chacun.
C'était Podcast de rue, épisode 5, Pause Clope. Prise de son, réalisation et montage, Sarah Jacquet, Radio Saint-Ferréol. Merci à Géraldine et Alexis.
Bonjour mes chers auditeurs, bonjour. J'habite en face d'une école. Je dois dire que la sortie, même un peu bruyante, de ces enfants, loin de m'agacer, me fait au contraire plaisir. Leur gaieté me remonte et leur optimisme doit être contagieux. Toutefois, voyez-vous, je ne suis pas content de leur langage.
L'Institut national de l'audiovisuel et les studios d'art et radio sont heureux de vous présenter Tout fout le camp, une série documentaire de Manon Prigent.
Bien connaître un adulte, il faut remonter à l'enfance.
La façon dont ils parlent, ils ont une prestance.
Comment ça se fait qu'on a perdu cette façon de parler ?
Pourquoi a-t-on toujours l'impression que les gens parlaient mieux avant ? Qu'y a-t-il derrière cet avant ? Et qu'est-ce que les jeunes ont à voir là-dedans ? Épisode 2. L'âge d'or, c'était mieux avant. Il y a comme une fâcheuse tendance à comparer le langage des jeunes d'aujourd'hui avec celui des jeunes d'hier. Quand on écoute Jean-Pierre Léo lors d'un fameux casting à 14 ans ou des interviews pendant mai 68 de jeunes étudiants, on se dit « tout fout le camp ». Mais pourquoi le langage des jeunes nous préoccupe-t-il autant ?
Il y a vraiment trop de laisser-aller et je m'étonne qu'il ne soit pas un peu repris lorsqu'il parle de cette façon. Je suis été puni. Je serre mes livres. Maman va me fâcher.
Dans l'intérêt que les linguistes, les sociolinguistes, les étudiants portent au langage des jeunes, il y a un double aspect. Moi, j'ai essayé d'analyser ça sous l'angle de rejet, fascination.
Le nez me saigne. Le cœur me bat.
Il y a à la fois une espèce de fascination pour la créativité, pour la nouveauté, pour l'inventivité, qui sont des aspects plutôt positifs.
C'est nous qu'on a gagné.
Et puis, y a aussi une espèce de rejet de l'anticonformisme, du fait que...
J'y ai dit.
Comme vous le suggériez tout à l'heure, c'était mieux avant, c'est-à-dire que...
La maison à mon père.
Même nous, quand on était jeunes, on parlait pas comme ça. En gros, génération après génération se reproduit ce truc-là, avec une manière de vivre, en fait, le changement, qu'il soit linguistique ou social, plus large, comme un éloignement d'un âge d'or, en quelque sorte. Voilà. D'un moment où la langue était à un état plus parfait.
Cyril Trimaille est sociolinguiste. Il s'intéresse au langage des jeunes depuis la fin des années 90. Pour y voir plus clair, retournons en arrière. À quoi ressemble cet âge d'or dont il parle ?
On a un certain nombre d'associations en mémoire, en stock, en quelque sorte, que notre cerveau va activer assez naturellement et souvent sans que ça passe à un niveau conscient.
J'ai une impression absolument merveilleuse de fraîcheur, de jeunesse, de sincérité, de vérité. Et vraiment, ces jeunes filles sont des vrais rayons de soleil.
C'est une caractéristique de toutes les langues que d'évoluer, de changer, notamment au niveau de la musique, de la mélodie. Vous parliez de la mélodie des langues.
Il y a des surprises parties qui sont diablement plus intéressantes.
Qu'on appelle la prosodie, hein, c'est tous ces aspects mélodiques de rythme, de débit, de volume, de hauteur, etc. Je pense qu'on a une espèce de mémoire de ce qu'on a pu voir dans les films, dans certains reportages télévisés, justement dans des images d'archives, où on va associer, je sais pas, ne serait-ce que tel type de prosodie et du noir et blanc, par exemple.
Les deux héros ont bien voulu permettre aux disques Odéon d'enregistrer une conversation familière, pleine de souvenirs, évoquant les efforts surhumains qu'ils durent fournir, les périls qu'ils affrontèrent et l'indicible joie d'un retour glorieux parmi les leurs sur la douce terre de France.
Si on compare la radio des années 40-50 avec la radio de maintenant...
Maria Candéa, sociolinguiste.
C'est que dans les années 40-50, effectivement, les journalistes privilégiaient l'intelligibilité. Mais ça, c'était une stratégie professionnelle. Parce que comme la parole était transmise de façon un petit peu dégradée, il fallait aussi laisser plus de temps au cerveau qui entendait de décoder l'information.
Difficulté due en grande partie à la dispersion, à la précarité de nos installations et à l'insuffisance de nos moyens techniques.
Je pense que c'était vraiment très lié au style oratoire, qui avait aussi sa propre histoire, qui en fait était l'héritage du style oratoire sans micro. Il faut quand même se souvenir que les gens avaient comme modèle des personnes qui s'adressaient à la foule sans micro. Et ça a disparu. Parce que maintenant, on a confiance dans la qualité du matériel et on a l'impression de pouvoir parler vraiment normalement, même si on est devant un micro. Donc, j'ai beaucoup de mal à imaginer que les gens parlaient avec ces allongements fleuris.
Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot.
C'est vrai qu'à une époque, quand j'allais dans les colloques et les conférences, on me posait souvent la même question sur la manière dont les acteurs, et particulièrement les actrices, prononçaient leurs textes.
Michaela Vécassis, linguiste.
Elles avaient une tonalité que les gens qualifiaient d'hystérique.
Mais je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne question. Tiens, pourquoi ils parlent comme ça
En fait, ça tient à la manière dont on filmait à cette époque et dont on captait le son. On mettait les micros au plafond, ce qui forçait les acteurs et les actrices à porter la voix. Donc c'est pour ça qu'on a des actrices, je ne dirais pas qu'elles hurlaient, mais elles ont une voix très haut perchée.
Oh là là, deux types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Un film des années 30 et 40, effectivement, on a une transposition de la diction théâtrale au cinéma. Alors c'est vrai que c'était un gage d'excellence de savoir articuler à cette époque-là.
Il avait vraiment écrit les notes, vous comprenez? Je n'avais qu'à les chanter, si
vraiment,
vous voulez.
Vraiment, même oui. Le mot atmosphère, oui, il l'avait écrit
oui,
tel que vous l'avez
naturellement,
prononcé.
Il savait comment.
Souvent, quand on entend dans des entretiens des personnes comme Arletty, leur accent est beaucoup plus neutre. C'est-à-dire que ces acteurs, ces actrices ont tendance à surjouer au cinéma. On a d'une certaine manière des concentrés de traits linguistiques que l'on entend, que l'on a entendus. Mais il s'agit d'une langue que je qualifierais de fabriquée.
Ils sont forts parce qu'ils nous ont fait penser ça. Hein. Moi, j'ai pensé qu'ils parlaient comme ça. Hein.
On a quand même dans l'oreille des micro-trottoirs qui peuvent nous donner des éléments de comparaison assez fiables, comme on peut les entendre dans le film Jean Rouch.
Monsieur, s'il vous plaît. Êtes-vous heureux ?
Avec Edgar Morin, ils entreprennent d'aller interviewer des jeunes, notamment, dans la rue, pour leur demander qu'est-ce que c'est que le bonheur, qu'est-ce que c'est qu'être heureux.
S'il vous plaît, monsieur. Êtes-vous heureux ?
N'ayez pas peur, on ne veut pas vous faire de mal.
C'est parce que vous appelez heureuse. Heureuse, je suis heureuse en ménage, oui.
Non. Heureuse de vivre, malgré que j'ai 60 ans.
Vous avez 60 ans ?
Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. Je suis contente d'avoir la santé et un mari gentil.
Ça dépend.
Ça dépend de quoi ?
Ça dépend sur quoi ? Vous savez, question d'argent, non. On n'est jamais heureux quand on est ouvrier.
Alors c'est tout l'enjeu, justement, là, de ce film, que d'essayer de porter à l'écran une réalité avec tout le questionnement. Est-ce qu'on surjoue ? Comment transposer le réel au micro ou à l'écran ? La question n'est pas résolue. Eux font plutôt le constat d'un échec.
Dans le cinéma des années 30, le monde reposait sur une séparation nette entre classe populaire et classe aisée. Tout était à sa place, chacun parlait le langage de sa classe. En discutant avec Michaela Bekassis et avec Philippe Boula de Mareuil, le phonolinguiste que vous venez d'entendre, je réalise qu'au cinéma, à partir des années 2000, l'argot, le verlan, sont utilisés par toutes les couches sociales. Le cinéma vient alors refléter et alimenter une crainte, celle que le langage des jeunes met en péril le bon français.
Cramponnez-vous, tout fout le camp.
Quelle rigolade. Hop, une passe.
Comment tu vis? Raconte-moi un peu une journée, par exemple.
Ah, une journée, se lève un peu tard. On va voir les copains au café, on discute, tout ça. On traîne, tout ça. On fait les rues, tout ça. On se balade, quoi.
Comment tu te procures de l'argent?
Ben, en volant, premièrement. Alors, quand on vole, eh ben, dans les grands magasins, on essaie de tirer des, je sais pas, du matériel, des magnétos, tout ce qui peut se revendre, quoi, des caméras, des habits potables, quoi, des trunches, des jeans, tout ça, pour pouvoir les revendre, quoi. Pouvoir se procurer de l'argent.
Tu t'es fait piquer plusieurs fois?
Pour vol? Ouais, plusieurs fois, ouais.
Tu as passé combien de temps en prison?
Voilà, j'ai passé 2 mois et demi pour vol.
Qu'est-ce que t'avais fait?
J'avais volé une chaîne stéréo. Alors, j'ai voulu la tirer et puis je me suis fait crever comme un con, quoi. Les inspecteurs, dans la nuit, m'ont attrapé, quoi.
Tu peux pas essayer de travailler?
Si, je travaille. Quand je vois que je ne peux plus voler, je travaille.
Donc là, c'est une archive des années 70. Est-ce qu'on peut dire que le langage des jeunes est le prolongement de la gouaille populaire?
Alors, il y a certains traits, notamment phonétiques, hein, qui semblent avoir survécu ou voire même s'être développés. Hein. Je pense à un des traits sur lesquels on travaille avec Maria Candéa, justement, qui est la palatalisation ou l'affrication, c'est-à-dire les prononciations de certaines consonnes de façon un peu mouillée. Par exemple, le te qui va être prononcé tche ou tche, le que qui va être prononcé que.
Je trouve que ça ressemble à notre langage, enfin à notre accent de banlieue d'aujourd'hui aussi. Je trouve que ça n'a pas beaucoup changé.
Et ça me surprend un peu, car ça veut dire que finalement, tous les jeunes ne s'exprimaient pas dans un langage aussi développé, en fait. Donc finalement, ça veut peut-être bien dire que ma génération n'est peut-être pas aussi mauvaise qu'on ne le pense, finalement.
Alors je ne sais pas dans quel état c'était dans les années 50-60, mais dans les années 70, typiquement, c'est utilisé. Alors, je pense à Coluche, par exemple, qui me semble incarner une forme de gouaille parisienne.
Moi, j'ai adopté le langage de la rue. J'ai piqué le langage dans la rue qui me l'a rendu, quoi, en disant que c'était de moi. Et puis, en fait, c'est d'eux, quoi.
Mais typiquement, ça, c'est des choses qu'on trouve chez lui, à la fois dans ses paroles ordinaires et ses mises en scène.
Mais c'est vrai que le langage populaire est plus important que tout le reste, parce que c'est un moyen de communication. Moi, je crois même qu'on pourrait complètement écrire en phonétique. Complètement, quoi, je veux dire.
Après, il y a des formes argotiques qui ont été, on pourrait dire, remises au goût du jour par des jeunes, comme daron, comme tricard, qui sont des formes très anciennes au niveau lexical. Alors, je sais pas si, à nouveau, on peut mettre ça du côté de la gouaille, mais ça me fait semble faire partir d'un... on va dire d'un vieux fond d'argot parisien notamment. Dans les recherches que j'ai faites dans les journaux type magazine, hebdo et tout ça.
Au cours de la première heure de questions pour un samedi, nous vous avons parlé de l'argot, du langage de la rue et de celui de la radio. Nous abordons maintenant un langage un peu particulier, le langage des jeunes. Et oui, les jeunes ont eux aussi leur propre langage.
Il y a l'irruption du verlan à la fin des années 70, début des années 80, puis son développement à la fin des années 80 qui est déjà là, enfin, qui est déjà diffusé par les médias.
Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le verlan, comment tu dirais en verlan, on est en train de faire une émission pour France Culture.
Le principe du verlan, c'est que il y a des mots comme émission, tu ne veux pas dire en verlan. Ça n'existe pas, parce que les gens qui parlent verlan, ils parlent leur langage en verlan. Tu vois. Et dans leur langage, émission, ça n'intervient jamais.
Ce qui se passe avant, moi j'ai en tête Renaud et ses vieux albums, hein, donc des fins des années 70, où on a quand même parlé, qui me semble être une espèce de lien justement entre la gouaille parisienne et une forme de parler des banlieues, puisqu'en fait Renaud c'est déjà la banlieue. Hein, donc,
Et en plus, émission, ça fait si on m'y est, tu vois, c'est encore moins beau en verlan qu'en français. En verlan, on dit les mots qu'on aime et qu'on emploie tout le temps. Tu vois. Je veux dire, c'est zesgon, gonzesse, c'est purfly, flipper, c'est une meufa, une meuf, un flic, c'est, tu vois, c'est pas le langage de tout le monde, le verlan. Tu vois. C'est pour ça que c'est...
La première fois que t'as mis du verlan dans tes chansons, c'est laisse-béton.
Ouais.
Ce qui veut dire laisse tomber.
Laisse tomber.
Alors la mode, en fait, la mode en linguistique... se diffuse par les mêmes mécanismes que toute mode sociale dans tout autre domaine de la vie en société, en fait. La langue n'existe pas quelque part, c'est une pratique sociale. Donc en fait, ça se diffuse toujours de la même manière. On va imiter son entourage proche et on va imiter des gens qu'on aime bien et des personnalités. Donc il y a des leaders. Et en fait, on a tendance à imiter les gens de son entourage et on modifie ses pratiques si tout d'un coup, il y a une personnalité qui nous plaît, qu'on apprécie et qu'on a envie d'imiter.
Ah bah vraiment, elle dit beaucoup de choses intéressantes. Bon, en fait, c'est vrai, la manière de s'exprimer, c'est tout un art un peu. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de manières de s'exprimer. Et en soi, c'est cette manière-là qui va donner une image par rapport à quelqu'un. Ça, c'est vrai ce qu'elle dit. La manière de parler, de la gestuelle, il y a beaucoup de facteurs dans la communication, qui font qu'en fait, tu donnes l'image que tu veux donner à travers ta parole.
Et les leaders, ça dépend des époques, mais c'est les mêmes qui font les modes pour la musique, pour le vocabulaire, pour les coiffures. C'est un peu les mêmes, c'est-à-dire que les modes vont être clivés socialement, et par âge aussi, et parfois même par genre. C'est très complexe, et c'est pas linéaire du tout.
On a sorti des t-shirts qui s'appellent Fuck RATP, tu vois. Je veux dire, c'est pour bien leur montrer que, quoi, tu vois. Je veux dire, nous, on pense que la Terre est à tout le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, on se fout des institutions, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je suis chez moi, j'écris sur le mur. T'as vu, il y a des... Je veux dire, tu pourras le dire, chez moi, il y a des trucs écrits sur les murs, tu vois. Et des fois, il y en a, ils me disent, j'écrive, ils me disent, et chez vous, vous faites pas ça? Bah, je leur réponds, bah si.
Bah, on sait que l'innovation linguistique, notamment lexicale, mais aussi phonétique, elle est souvent le fait des jeunes de milieu populaire. Tout à l'heure, moi, j'employais le couple rejet-fascination. Dans la fascination, il y a une forme de jeunisme qui fait que quand on vieillit, on a envie de rester un peu jeune. Et une des façons de le faire, c'est notamment le langage. Voilà. Un phénomène qui a été montré depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle le changement d'en dessous, au sens de changement inconscient, où on va avoir une adoption de traits linguistiques qui, le plus souvent, viennent des classes populaires, hein, des milieux moins favorisés, on va dire, qui vont être adoptés par les classes moyennes, quoi. Peut-être on peut prendre un exemple autre que celui du langage, mais il y a une cinquantaine d'années, être tatoué, c'était revendiquer ou être rangé dans un statut de marginal de la société. Ben, vous voyez aujourd'hui ce qu'est devenu le tatouage. Je pense qu'on peut assez facilement faire le parallèle avec des formes linguistiques plus ou moins marginales, mais en tout cas qui n'appartiennent pas à des groupes sociaux qui bénéficient d'une grande légitimité. Voilà. Pour le dire pudiquement, et puis le fait qu'on va emprunter en quelque sorte certaines valeurs qu'on associe à ces groupes sociaux, comme, ben, je sais pas, typiquement pour les jeunes garçons, la virilité, elle est associée au langage populaire. Voilà. Donc, de la même manière, peut-être que l'argot l'était il y a, l'argot des blousons noirs, etc. L'était il y a 50-60 ans.
Ah, c'est honte, ça, c'est truc. T'as vu un peu
bien une dans la legueur,
c'est bien lesbe, hein, hein. T'as vu, boule, t'es ma plus 605 hommes, t'es ma soeur, pour ta rhum.
Ou l'argot, il est comme ça, il est dans notre tête, il est dans la rue, il est dans les murs, il est sur la gueule des flics, il est là, là où on est malheureux, tu vois.
Depuis les années 90, si on situe un changement là, des fautes de phénomènes nouveaux observables, il y a une expression qui a fait florès depuis, c'est celle d'accent de banlieue, de jeune de banlieue, avec tout un imaginaire qui, comme la banlieue elle-même, sous-entend la banlieue populaire. Donc ça, c'est intéressant de voir que des expressions comme « parler jeune » a cédé le pas à d'autres, comme « parler de banlieue ».
Quand on dit « rendez-vous », un jeune, il peut dire à un autre « on se capte ». Vas-y, vas-y, on se capte. Sémantiquement, ça veut rien dire « on se capte ». D'accord ? Mais lui, en fonction des éléments qu'il a et que l'autre, son interlocuteur, il a, ils savent qu'ils vont se capter dans tel endroit, à tel moment. Je te donne un exemple. Il y a un jeune qui rentre dans un magasin, il y a un jeune qui travaille, ça c'est quelque chose que j'ai vu. Bonjour, ouais, ça va? Ouais, ouais. Vas-y, tranquille. Ouais, vas-y, passe. Ouais, ouais, vas-y, passe, passe. Quand t'entends la conversation, t'entends trois fois ou quatre fois le mot passe. Mais tu sais pas, il va passer quand? Et tu sais pas, il va passer où? Mais eux, entre eux, ils savent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les jeunes, ils sont organisés, il y a des relations super tacites. Il y a des contrats tacites entre tout le monde.
Mais voilà, en fait, cette expression « parler jeune », elle est piégée. Si on enlève les couches d'euphémisme et de non-dit, et de politiquement correct, c'est parler des jeunes arabes de banlieue. Je caricature un tout petit peu. Il y a effectivement, personne ne contestera qu'il y a des inégalités sociales et des ségrégations spatiales très fortes. Voilà. Donc ça, il me semble que c'est un constat complètement établi. Et que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut chercher les causes de la fracture sociale et qui débouche effectivement sur des questions linguistiques, de problèmes d'appropriation du français, des problèmes de réussite scolaire liés à l'absence de perspective sociale, en quelque sorte, professionnelle, sociale.
Par rapport à l'accent dit de banlieue, il est quasiment entendu dans la société que c'est un handicap. Cette gouaille des titis parisiens qui a été portée à l'écran, mise en scène par des acteurs et chanteuses célèbres des années 30-40, qui aujourd'hui sont auréolés d'un certain prestige avec la nostalgie, la patine de l'histoire et bon, mais des films célèbres quand même qui l'ont véhiculé. Arletty est maintenant encensée comme une grande actrice. Si on se rapporte au discours des bourgeois de l'époque, je pense qu'on aurait pu entendre tout à fait autre chose.
En effet, par conséquent, nous pourrions conclure en disant qu'il y a une mythologie française.
Il y a une mythologie française et ces vieilles vérités, ces vieux mythes font corps avec notre imagination.
Le langage des jeunes existe en premier lieu dans l'esprit de ceux qui ne le sont plus, jeunes. Ça nous touche aussi, car c'est de notre propre jeunesse que nous nous sentons nous éloigner.
C'est un peu le propre de tout un chacun d'être nostalgique de l'époque de ses 20 ans et...
Quand l'homme surchargé de jour cherche dans les endroits où il a vécu jadis le parfum évanoui de sa jeunesse...
Il est vrai qu'il y a quelque chose de jubilatoire en fait... lorsqu'on entend des choses ou des chansons que l'on connaît et qui ont bercé notre enfance.
Moment d'étrange lucidité, en effet, que celui où les souvenirs, brouillés jusque-là dans l'activité quotidienne, se dégagent et reparaissent un à un.
Ça nous suggère d'autres moments, une époque, mais aussi une sensation, et c'est la propriété d'une chanson ou d'un film de nous rappeler des émotions.
Dans l'épisode suivant, comme un remède à cette nostalgie, demandons à des jeunes d'aujourd'hui de nous expliquer comment ils s'expriment et quels sont les mots nouveaux. Le langage des jeunes s'imprime de l'air du temps. Pour savoir ce qu'il raconte de notre époque, c'est à suivre sur arteradio.com.
Les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent. Non. Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.